De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, à notre bien-aimé Apphia, à Archie, notre compagnon de combat, et à l'Église qui s'est réunie dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.
Merci. Je propose de faire la même chose, de prier afin de recevoir la paix de Jésus-Christ dans nos cœurs, afin que nous puissions être attentifs au message ce matin et le recevoir. Ça enregistre. Merci Seigneur, tu nous dis aussi dans ta parole que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence peut garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, prier ce matin pour que justement cette prière que Paul fait dans l'introduction de cette lettre, nous voulons faire cette même prière ce matin, que tu puisses remplir nos cœurs de paix et que notre intelligence s'accorde, Seigneur, à ta parole, afin que nous puissions mettre en pratique les vérités que nous trouverons en elle. Vraiment, aide-nous par ton Saint-Esprit à modeler nos cœurs dans quelques paroles difficiles de ce texte, afin que nous soyons transformés à ton image et que nous soyons une lumière pour plusieurs personnes autour de nous. Oui, Seigneur, aide-nous ce matin, alors que nous parcourons cette épître, au nom de Jésus. Amen. Tu peux continuer peut-être? Le 4 à la fin.
Oui, le 4 7. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Moi, Paul, qui suis un vieillard et de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ, je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant il nous est bien utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie, et toi accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour toujours. Non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. Il est particulièrement pour moi, il sera d'autant plus pour toi dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te rembourserai sans vouloir te rappeler que toi aussi, tu as une dette envers moi, c'est toi-même. Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit, sachant que tu feras même plus que je ne te demande. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Apaphras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit.
Merci. Voilà, on a fini la lecture d'un livre de la Bible. Pour qui est-ce que c'est la première fois que ce texte est lu? D'abord, ok? Oui, ok. Donc, ça va nous intéresser un petit peu d'essayer de sortir certaines choses de là. C'est intéressant. Je commence tout de suite pour dire, cette lettre n'est pas un plaidoyer contre l'esclavage. Il faudrait ne pas faire l'erreur de prendre notre vision même de l'esclavage aujourd'hui, notre point de vue actuel sur ce que c'est, sur ce que ça a été, et se transposer dans l'époque de Paul, et de dire, mais Bien évidemment qu'il faudrait que, quand il revienne vers lui, il le libère. L'esclavage, c'est pas bien. Il ne faudrait pas s'attendre à voir ça dans le texte ici ce matin. Et je vais dire pourquoi. C'est que l'esclavage à l'époque, à leur époque, était très répandu. Mais ce n'était pas le même genre d'esclavage qu'on a connu quand on traite des Noirs ou pour une idée de racisme ou de race supérieure ou de peuple inférieur pour une raison ou une autre. Mais c'était parfois des personnes qui, en fait, pour une raison ou une autre, pas forcément une question d'argent, se mettaient au service de notre maître. C'était pas forcément à vie, c'était peut-être un contrat pour 7 ans, pour certains.
Ou pour rembourser ses dettes aussi.
Ou pour rembourser ses dettes, là c'était une question d'argent. Mais ça pouvait arriver que c'était pas juste des personnes qui n'avaient aucune formation et qui ne pouvaient pas s'élever dans la société, il y avait aussi des docteurs, il y avait des philosophes, il y avait des avocats, il y avait toutes sortes de métiers, qu'on pourrait dire, de haut placés dans cette société, qui à un moment ou à un autre de leur vie, trouvaient la nécessité, et ils n'avaient pas d'autre choix finalement que de se mettre comme esclave d'un maître. Donc il ne faut pas forcément toujours voir le maître qui va être méchant sur l'esclave et qui va s'en servir de façon inhumaine, parce que d'ailleurs, les Romains avaient mis en place certaines lois qui empêchaient, on va dire, certains actes de cruauté. Bon, ça n'a pas empêché, bien sûr, pour certains de pratiquer certains actes de cruauté, mais il faut quand même se placer dans un contexte où tous les maîtres qui avaient des esclaves n'étaient pas des esclavagistes, comme on pourrait l'avoir en tête. Et si on n'a pas ça en tête, on aura du mal à comprendre en fait ce que Paul essaie de demander ici. Donc ça, pour le contexte, on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Et ce que je vous propose, un petit peu pour voir clair et ressortir de l'enseignement pour nous, c'est d'essayer de diviser le chapitre, ou la lettre, en deux parties, et de clôturer sur un axe. Donc les trois parties, ce serait, j'aurais aimé projeter ça, mais essayer de mémoriser, j'essaierai de le rappeler. Une première partie, ce serait de voir qu'entre les versets 4 et 9, Paul va utiliser une certaine stratégie avant de lui exprimer sa requête. Il va commencer à faire une éloge, on va voir. Puis, 10 à 21, on va voir que Paul va effectivement demander quelque chose de difficile à son ami Philémon. Et en troisièmement, on va voir justement que ce qu'il lui demande, c'est pas simplement de pardonner, mais d'aller au-delà de ça. Il va lui demander de l'accueillir plus comme un frère que comme un esclave. On va voir tous ces axes-là. On essaiera pour nous de faire le lien, qu'est-ce que ça veut dire pardonner. Ce sera un peu notre application. Et voir comment est-ce que Paul va utiliser sa théologie, ou plutôt Jésus-Christ ici, comme raison pour laquelle nous devrions pardonner. Et il y aura deux clés en fait dans ce texte. Je pense que vous les avez peut-être vus. C'est vrai qu'à la première lecture, on ne peut pas forcément tout de suite les voir. Mais Paul va utiliser un argument de foi, la foi de Philémon, et un argument d'amour, l'amour de Philémon. Et on va voir ça ensemble. Bon, première partie, Paul est stratégique. Stratégique quand il écrit sa lettre. Alors je ne sais pas vous, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'écrire une lettre à quelqu'un ou de vous adresser à quelqu'un alors que vous allez devoir lui demander quelque chose de pas évident. Bon, moi j'ai fait une formation d'ingénieur pendant un certain temps et on m'a emmené en cours de management et on m'a dit bon, vu que tu as du personnel, tu dois apprendre à bien communiquer avec eux et quand tu dois leur dire quelque chose qui ne va pas. Alors, il y a une façon de faire. Alors, je suis allé en formation pendant une semaine pour savoir comment m'adresser à une personne et lui dire ce qui n'allait pas dans sa vie, ou dans son comportement, ou dans son travail, ou dans quelque chose. Et une des règles qu'on donnait au XXIe siècle, après des dizaines d'années de psychologie et tout ça, on ne doit pas aborder la personne tout de suite avec le problème. Il faut d'abord dire ce que la personne fait de bien avant de lui dire ce qu'elle fait de mal. Et à ce moment-là, je me rappelle en formation, on était plusieurs à se demander, parce que c'est pas un peu de la manipulation, ça, quelque part. On arrive avec la personne, on dit, tu sais, oh, tu es vraiment quelqu'un de formidable, et ça, tu fais ça tellement bien. Par contre, ça, c'est nul, quoi. Je dis, Et je me suis posé un petit peu la question, je me suis dit, mais quand même. Et la personne qui faisait la formation, bien sûr, qui était payée par la compagnie, elle devait défendre sa position, elle devait dire, non, c'est pas de la manipulation. Mais si vous n'arrivez pas à montrer à la personne que vous êtes capable de voir les bonnes choses qu'elle sait faire, pourquoi est-ce qu'elle vous écouterait lorsque vous ne voyez chez elle que le mauvais qu'elle fait toujours? Et c'est vrai, d'une certaine façon. Si on aborde une personne et qu'on lui dit, tu sais, tu fais ça mal, et ça aussi, et ça, et ça, et ça bien. Et la personne, elle se dit quoi? À la fin, je fais tout mal. Est-ce que je suis si mauvais que ça? Et ça peut briser une personne, en fait, et ses oreilles aussi. Il n'entendra plus ce qu'on veut lui dire. Non, désolé, je ne veux pas entendre. C'est déjà assez de mal comme ça, la critique. Et on va voir qu'il y a quelques stratégies ici que Paul nous donne pour savoir un petit peu comment écrire une lettre et comment communiquer en général. Donc, si on devait résumer les versets 4 à 7, bon, vous avez devant les yeux, vous pouvez regarder que je ne dis pas de bêtises, on pourrait dire de façon contemporaine, tu sais Philémon, tu es sur ma liste de prières et d'actions de grâce. Chaque fois que je pense à toi, j'ai des sujets de remercier Dieu, quelque part. Hein, si on regarde ce qu'il dit, en fait. Quand je pense à toi, mon cœur est dans la joie parce que je sais que Dieu travaille en toi. Ça ne vous ferait pas plaisir que quelqu'un vous parle comme ça, vous dise j'ai vu le travail de Dieu dans ton cœur, je sais qu'il est là et j'ai vu les fruits. Et chaque fois que je pense à toi, je remercie Dieu pour ça. Une bonne façon d'ouvrir la lettre, hein, quelque part. C'est... Donc il pense infiniment dans cette prière. Et il ne s'agit pas de manipulation. En fait, il s'agit de trouver le bon destinataire. Quand vous écrivez une lettre, vous parlez à deux personnes en même temps. Quand vous êtes chrétien. Est-ce que vous voyez pourquoi je dis ça? Quand vous écrivez une lettre à un chrétien, un frère, vous parlez à deux personnes en même temps. Vous parlez à sa vieille nature et à sa nouvelle nature. À qui est-ce que vous voulez écrire la lettre? À qui? Est-ce que vous voulez irriter l'ancienne nature de la personne? Est-ce que vous voulez permettre à sa nouvelle nature de se renforcer? Comment est-ce que vous allez vous adresser? Est-ce que vous allez choisir des mots bien piquants, bien difficiles, pour que sa vieille nature prenne le dessus et puis vous rebalance tout dans la figure? Est-ce que c'est ça que vous voulez faire? Ou est-ce que vous allez dire non, je pense que cette personne est mon frère, et je pense qu'il y a un esprit en lui qui peut décrypter ce que je veux dire, mais je veux parler à lui. Et Paul, je pense qu'il veut s'adresser au bon destinataire, à sa nouvelle nature. Et comment le fait-il? Ben, il va lui dire, je sais en toi qu'il y a des choses que Dieu est en train de faire. J'ai vu ton amour, donc je vais reprendre bien le texte pour ne pas dire de bêtises. Ok, je vais reprendre là. Voilà, je suis... Voilà, je vous demande participation à la foi sur Christ. Voilà. Je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Cette chose-là qu'il lui dit, il lui parle de sa foi qu'il a au Seigneur Jésus-Christ et l'amour qu'il a pour la communauté. Donc c'est un petit peu comme si la lettre était adressée à Clément qui accueille l'église dans sa maison. Ici, hein, c'est la même chose. Il y a des gens qui se réunissent chez Philémon. Et Paul écrit à Philémon en disant, voilà, je vois la foi que tu as dans le Seigneur Jésus-Christ, je vois l'amour que tu as pour la communauté des gens qui sont chrétiens autour de toi, qui sont de ta famille, quelque part. Donc il ouvre la lettre de cette façon-là. Et comme on le voit en fait dans Galates 5, 24 ou dans Luc 9, 23, il faut prendre conscience que les chrétiens, les personnes qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu en eux et une nouvelle créature est apparue. Donc prenons garde à bien nous adresser à la bonne personne lorsqu'on nous suit. Et donc, il va lui dire, je demande à Dieu que ta foi se manifeste par des actes concrets qui donneront de l'énergie à la communauté. Si vous regardez le verset 6, j'ai paraphrasé un petit peu ça, le mot en fait qui dit, qui rassurera les saints ou qui donnera à la communauté du bien, ça dépend un peu de votre traduction. Qu'est-ce que vous avez au verset 6? Je lui demande, toi, qu'est-ce que...
Je demande à Dieu que cette foi qui nous est commune continue à se monter efficace en toi.
Oui.
Qu'elle porte des fruits en t'inspirant des actes de générosité, qu'elle se communique à d'autres, que tu puisses reconnaître et apprécier Christ et comprendre pleinement le bonheur que nous avons à marcher avec lui.
Tout à fait. Et donc ici, quelque part, il demande, en grec on a un mot en fait qui est utilisé, qui a donné notre mot énergie en fait. Quelque part il est en train de dire, je demande à Dieu que ta foi se manifeste par des actes concrets, qui donneront de l'énergie à la communauté, quelque chose qui a un témoignage. Okay. Et il dit, puisque tu as la foi en ce Seigneur Jésus-Christ, puisque tu as de l'amour pour la communauté, alors je demande que cette foi-là produise de l'énergie pour la communauté. Et de l'amour pour tous les saints, au verset 7. Donc, toujours cet amour. Il lui dit, par toi, frère, le cœur des saints, ou bon, des chrétiens, de la communauté, a été tranquillisé. Est-ce que vous connaissez des personnes comme ça qui, quand vous parlez avec elles, vous êtes à l'aise, vous êtes bien, vous en sentez à l'aise. Donc, vous parlez avec un frère chrétien et vous sentez sa maturité, vous sentez que ça vous bénit, quelque part. Eh bien, Philémon, c'était quelqu'un comme ça. On aimait être avec lui. Paul le sait, et les gens étaient autour de lui, ils aimaient être avec lui. Et le mot qui est derrière tranquilliser, c'est le même qui a donné rafraîchir, avoir cette sensation d'avoir déposé un fardeau, avoir cette sensation d'être revitalisé, rechargé. Bref, en gros, comme je dis, finalement, c'est le genre de gars qu'on veut dans l'église. Hein? C'est le genre de personnes qui nous font du bien quand on est bien avec eux, on a envie de revenir, on veut leurs conseils, et ainsi de suite. Donc il est engagé, finalement. C'est pas juste le gars qui vient et il sait pas pourquoi il vient à l'église. Il sait pourquoi, il fait du bien à la communauté. Et ce que Paul est en train de faire ici, on pourrait dire, mais attends, il est en train de glorifier un homme. Est-ce qu'il devrait pas juste dire, gloire à Dieu, que voilà, il a pu faire des choses en peut faire. Oui, il le fait, mais Paul met en pratique sa propre théologie, qu'il conseillera aux Philippiens au verset 29 du chapitre 2, il dira que de tels hommes, comme il parle d'un autre ici, mais que de tels hommes soient honorés parmi vous. Donc ce n'est pas juste gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, mais merci d'être un frère pour moi, merci d'être comme ça pour moi, Dieu se sert de toi. Bien sûr que la gloire revient à Dieu. Et Paul peut faire cela parce que Philémon est quelqu'un de spirituel. Si c'était quelqu'un de 100% humain, charnel, il serait là en train de dire « Oui, c'est normal, forcément, je suis quelqu'un de bien, parce que je fais ça, et je fais ça. » Non, il sait que Philémon va rendre gloire à Dieu, qu'il est capable de faire ces choses-là. Donc Philémon ne va pas s'enorgueillir de ces éloges que Paul fait. Il le reçoit en disant « Je vois effectivement, Paul le voit, la communauté le voit, Dieu travaille, parce qu'ils ont vu la foi. » que j'ai en Jésus-Christ, et ils ont vu l'amour que j'ai pour eux. Est-ce que les gens peuvent dire ça de nous lorsqu'ils nous lisent ou qu'ils nous entendent? Est-ce qu'ils peuvent dire ça de nous? C'est déjà une première question qu'on peut se poser. En tout cas, c'est le cas de Philémon. Et Paul peut faire bien honneur à cet homme, parce que, comme je dis, donc, il est spirituel, ils savent tous les deux que la foi et l'amour sont des vertus qui sont données par Dieu, elles ne sont pas juste là dans le vieil homme. Si Philémon a ces deux vertus, foi et amour, c'est que Dieu les a données. Donc il n'est pas question d'orgueil. Et si nous sommes chrétiens, nous avons aussi reçu la foi de Jésus-Christ et l'amour pour les saints. C'est un fruit de l'esprit. Il y a quelque chose qui fait qu'on a envie d'en savoir plus. On veut rechercher dans les Écritures, on veut comprendre, c'est la partie foi, si on veut, okay, on veut trouver de la force dans les éléments de nos vies qui ne sont pas évidents, et on veut essayer de comprendre ce que Dieu voudrait attendre de nous, c'est la partie foi, on croit que Dieu est une réponse pour ces choses-là, on cherche les Écritures, on se réunit en communauté, et on a de l'amour pour les saints, les chrétiens, les personnes, et ça va au-delà, ça sort même du cadre chrétien. Donc, en tant que chrétien, on a reconnu en fait ce verset du Philippiens 2 qui dit que Dieu travaille en nous sa volonté, donc mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, okay, parce que c'est Dieu qui crée en vous le vouloir et le faire. On vit de cette tension, de cette chose qu'on ne comprend pas, on se dit j'ai envie de donner de l'affection, j'ai envie d'enseigner, j'ai envie de donner à une personne une parole gentille, une parole d'amour, et on ne comprend pas d'où ça vient, mais c'est l'œuvre de Dieu qui est dans notre cœur. Et en même temps, c'est l'œuvre qu'on fait en même temps. C'est une chose qui se fait mutuellement. Et ça, cette chose qui était dans les chrétiens, qui est dans les chrétiens, est une chose qui, que Paul voit dans Philémon. Et donc le verset 8 et 9, Paul, quelque part, est en train de commencer à de switcher de la reconnaissance et de la reconnaissance à Dieu que Philémon est une personne de ce type-là, pour lui dire, je veux que tu ailles plus loin. Puisque tu as foi et amour, je veux que tu ailles plus loin. Et donc verset 8 et 9, il va dire, c'est pourquoi, donc on avait vu ce jeudi que les conjonctions de coordination, c'est important dans un texte, pour savoir que, pour relier une idée à une autre, c'est pourquoi, parce que tu es quelqu'un comme ça, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, en gros, je suis un apôtre, je peux venir vers toi et te dire, tu sais, tu dois faire ça et tu vas le faire. C'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul un vieillard, et plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. C'est parce que Philémon est spirituel, parce qu'il a la foi et l'amour, qu'il pourra faire ce que Paul va lui demander. Donc, deuxième partie, Paul va commencer à exposer sa requête. Alors, dans l'histoire, il y a Onésime. Donc, imaginez juste le contexte. Vous êtes Philémon, chrétien, respecté de la communauté. Même votre père spirituel, on voit que Paul, en fait, est à l'origine de la conversion de Philémon. On voit qu'il le respecte. Il y a un respect. Et puis, d'un coup, vous lisez la lettre et vous voyez Onésime. Et dans votre tête, vous voyez le gars qui vous a volé et qui est parti avec votre truc. Qu'est-ce que ça fait, ça, quand vous lisez la lettre? Ça avait bien commencé, pourtant. Pourquoi il doit parler de lui, maintenant, hein? Là, il y a une résistance qui intervient. Et Onésime, en fait, n'est pas retourné directement vers son maître. On voit, en fait, et si on fait un lien, en fait, d'autres écritures et les chronologies où Paul était en prison, en fait, on voit que Onésime a rencontré Paul en prison. Et Paul était emprisonné pour sa foi, et Onésime, on ne sait pas vraiment pourquoi il était emprisonné. Okay? Mais il était là, il s'est retrouvé dans la même prison qu'avec Paul. Alors peut-être qu'il est allé voir Paul en prison, parce qu'il savait qu'il était là. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il est devenu chrétien. Entre temps.
Il veut que le nouveau Philémon rencontre le nouvel Onésime.
Oui, quelque part. Hein, ici, il y a quelque chose. Donc, il s'est passé quelque chose. Onésime est parti comme un brigand, absolument pas chrétien. Okay? Il était avec un maître chrétien qui était sympa avec lui, d'une certaine façon. Et lui, il lui a tout piqué, il est parti. Et puis il rencontre Paul, et puis son cœur change. Et Paul lui dit, bah, tu sais, si tu veux être correct dans ta démarche avec Dieu, tu dois aller faire la paix avec le gars qui t'a tout volé, alors, quelque part. Donc Paul, ici, va être un peu comme un intermédiaire. Et ça, c'est intéressant, parce que parfois, quand il y a un conflit entre deux personnes, parfois, on n'arrive pas à s'en sortir tout seul. Parfois, il faut qu'il y ait une troisième personne qui vienne. Et le truc, c'est que le problème, c'est que souvent la troisième personne, elle met plus le problème qu'elle résout le conflit. Et c'est parce que souvent la troisième personne est mal choisie. Mais ici, ce qui est pertinent, c'est que Paul est à la fois le père spirituel de Onésime, nouveau converti, et à la fois le père spirituel de Philémon. Il n'a aucun intérêt à défendre l'un plus que l'autre. Aucun. Il a de l'amour pour les deux, on le voit dans le texte. Il dit, j'aimerais le garder avec moi. Il m'est utile. Et c'est ça qui est assez comique, c'est que son nom, Onésime, en grec, veut dire utile. Okay? C'est assez drôle. Alors, Paul va jouer un peu sur un jeu de mots ici en disant, ben oui, il n'a pas été très utile lorsqu'il était avec toi. Ben oui, il t'a tout piqué. Quoi. C'est vrai. Mais maintenant, il est devenu utile. Maintenant, il porte son nom pour quelque chose, quelque part. Mais imaginez, lorsque le pardon se fait attendre, lorsque l'amertume s'installe, imaginez le temps, en fait. C'est pas juste. Il part, Paul le prend comme ça, hop, tu deviens chrétien, c'est bien, ben on retourne. Non, il s'est passé du temps, entre temps. Ouais, ok, ça peut rien dire ce que je veux. Il s'est passé du temps. Onésime, il a eu le temps de se réjouir d'avoir tout volé, puis de se convertir, puis de se repentir, puis ainsi de suite, ok. Mais de notre côté, mettez-vous dans le cœur de Philémon. Il a eu le temps de te dire, avec tout ce que je lui ai donné, moi j'étais chrétien, j'ai tout fait bien pour lui et tout, et il me vole, il s'en va, il dit rien et tout. et vous repassez le film 250 000 fois dans votre tête pour vous dire comment est-ce que j'aurais pu faire pour... Ça vous est jamais arrivé comme ça d'avoir un conflit avec une personne et quand il n'est pas là, pendant longtemps, vous vous repassez le film du conflit toujours et vous vous dites « J'aurais dû dire ça si j'avais dit ça !» Là, j'aurais gagné le débat, j'aurais le conflit, j'aurais fait. Le problème, c'est qu'il n'est plus là. Ça ne sert à rien de se repasser le film en tête comme ça. Je vais vous dire une chose, chaque fois que je me suis repassé un film en tête d'un conflit que j'ai eu avec quelqu'un, j'ai toujours gagné. Toujours. J'ai toujours trouvé l'argument qu'il fallait dire. Mais bon, quand on joue les deux rôles, c'est facile. Hein. Et ici, vous pouvez imaginer un petit peu ce qui s'est passé dans cette tête. Hein, quand il voit... il y a eu le temps que l'amertume s'installe, il y a eu le temps, il y a eu des semaines, des mois, des années qui se sont écoulées sans réconciliation. Et puis t'as un gars qui arrive et qui te dit « Tu te rappelles, Nazim ?» Alors que vous pensez que c'était enfoui loin dans votre cœur, vous n'avez plus besoin d'y penser, vous étiez guéri, et puis il y a un gars qui arrive et qui fait « Nazim !» devant vous. « Tu te rappelles le problème que t'avais ?»« Ben, j'aimerais bien que tu le résolves maintenant. » C'est pas évident, hein, quand même. Alors pour un bon intermédiaire, ben, on peut prendre un ami, commun aux deux, c'est possible. Souvent, on dit qu'il faut prendre une personne neutre. Je pense que Paul ici est neutre dans le sens qu'il a de l'amour et de l'affection profonde pour les deux. Paul est soucieux de respecter à la fois la loi et son ami. Ce qui se passe quand c'est comme ça, quand un esclave s'enfuit, le maître doit déclarer qu'il est parti. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des mercenaires qui partent à la recherche de l'esclave qui s'est enfui. Donc, Paul préfère être cet intermédiaire-là, donc c'est mieux que ce soit Paul qui l'ait trouvé en premier, si on veut, qu'un autre. Et Paul veut faire en sorte ici que ça se finisse bien, pour les deux, plutôt que mal. Philémon est son ami, et Onésime est son nouvel ami, quelque part on peut dire comme ça. Il a de l'affection pour Onésime, on voit au verset 10, il l'a engendré. C'est quand même pas le genre de terme qu'on va dire, hein, je veux dire. Je l'ai engendré, j'ai de l'affection de mes entrailles. J'ai le désir de retenir Onésime tellement j'ai de l'affection pour lui. C'est frère bien-aimé. Reçois-le comme moi-même. Fais en sorte que je sois tranquillisé. Paul va utiliser quand même un vocabulaire qui... Bon, Philémon, il sait que... Onésime est important aux yeux de Paul, que c'est pas juste Paul qui essaie de simplement respecter la loi. Tu es chrétien, donc tu devrais aller demander pardon, c'est normal, tu es chrétien. Non, c'est pas ça. Il est en train de dire, faites la paix. Quelque chose de beau qui peut se passer ici. J'aimerais juste revenir en arrière une seconde sur Onésime aussi. Bien que esclave de Philémon officiellement, le fait qu'il soit parti dans un premier temps en tant que voleur, vivre sa propre vie comme il l'entendait, parce qu'il ne voulait plus être esclave, mais il voulait avoir l'argent, il est parti de son esclavage, mais il a emporté avec lui son esclavage. Pourquoi je dis ça? C'est que les Écritures nous montrent qu'on est esclave du péché que l'on pratique. Donc en volant, il est parti avec son esclavage. Il n'a pas laissé un Philémon son esclavage, il est parti avec. C'est des choses qu'on voit dans Romains 6, verset 16, ou Jean 8, verset 34. Celui qui pratique le péché est esclave du péché. Il n'y a pas de demi-mesure, on n'est pas dans une position neutre, on fait des fois le bien. Enfin, non, on est esclave du péché ou esclave de Dieu. Enfin, on nous donne les Écritures comme image. Soit serviteur du diable, soit serviteur de Dieu. Il n'y a pas de position intermédiaire. Et il va chercher donc ce secours dans sa conversion auprès de Paul, et Paul va vraiment lui enseigner ses vertus. Maintenant tu es esclave de Dieu, maintenant tu n'es plus esclave du monde, plus esclave du péché. L'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, dans la pensée de l'Onésime, ok, maintenant il y a un changement, il y a, ok, tu peux partir d'un lieu, tu peux fuir le problème que tu as avec la personne X, Y, Z, tu peux ne pas régler le problème que tu as avec elle, mais tu peux partir avec elle dans ton cœur. Il faut toujours penser à ce genre de choses. Peut-être que vous vous dites, moi j'ai aucun conflit avec personne, aujourd'hui peut-être. Est-ce que vos conflits du passé sont réglés? Ou est-ce que les personnes sont encore dans la prison dans votre cœur? Vous les avez mis dans les barreaux, ils sont là. Okay? Si on veut visiter votre cœur et qu'on regarde combien il y a de personnes qui sont piégées dedans? Combien?
Oui, mais la Bible dit aussi qu'être en paix avec quelqu'un, ça dépend aussi de la volonté de l'autre personne.
Oui.
Parce que parfois on peut s'être réconcilié, mais ça dépendait comme nous.
C'est ça.
Et il y a des moments où, quand ça devient impossible, moi j'ai dû faire à un moment donné un trait et dire ben voilà, c'est comme ça.
C'est ça, tu as fait la part du chemin, tu veux dire, quelque part.
Et donc à un moment donné, je dois aussi continuer à vivre.
C'est ça. Et c'est donc là, en fait, où tu fais bien de dire ça, parce qu'il y a une différence entre le pardon et la réconciliation. Le pardon, c'est avant tout une histoire de cœur, de dire je lâche cette personne de mon cœur, je ne vais plus l'utiliser comme instrument de torture sur ma conscience, je ne vais plus refaire vivre le film, je laisse. Quelque part. Je laisse dans le pardon. C'est entre les mains de Dieu.
On peut aussi intercéder pour les gens.
Oui, oui.
Pas dire qu'on est meilleur que l'autre, oui. Hein, mais moi je sais que j'ai eu une situation parfois qui était vraiment dure.
Oui.
Et je dis, bon, peut-être que j'ai ma part, ça je ne sais pas, de faute, mais à un moment donné je lâche et je prie plutôt que de dire rester sur.
Oui.
Mais attention, maintenant la réalité c'est si je la vois en face de moi, comment est-ce que je vais réagir? Est-ce que mon cœur va.
C'est ça. Mais ça doit le faire à chaque fois. De toute façon, on est jamais 100% spirituel dans une situation, c'est clair. Mais l'idée, c'est que la réconciliation est une étape suivante. On ne peut pas toujours être réconcilié. Comme tu dis, pour être réconcilié, il faut deux personnes. Pas une. Tu peux faire toute la démarche que tu veux de réconciliation, mais si tu as une résistance de l'autre côté, tu ne peux pas. Réconciliation nécessite deux personnes. Donc, c'est très intéressant, c'est qu'il a déjà travaillé, imaginez, on ne le voit pas ici, mais il a sûrement déjà travaillé dans le cœur de Nézine. Oui, tu sais, Nézine, tu dois retourner voir. Tu dois demander pardon au gars là que tu es. Ah bon, mais je pensais que j'étais une nouvelle créature, maintenant je pensais que c'était pas nécessaire, je pensais que c'était mon ancienne vie. Oui, mais justement, tu dois prouver que ta nouvelle vie est en phase avec Christ. Tu dois aller retourner demander pardon. Ah ok, d'accord. Mais il va pas m'accepter. Non, ne t'inquiète pas, je vais écrire une lettre et ça va marcher. Tu veux préparer ta venue.
Remets encore quelques précautions.
Hein?
Remets encore quelques précautions.
Tu veux dire?
Parce qu'il en met quand même.
Oui, cuisine. Hein? Donc, un esclave maintenant affranchi de Nézine, quelque part, qui reconnaît avoir été esclave de certaines choses, il demande pardon, il faut retourner. Je ne pense pas personnellement que Paul aurait écrit cette lettre si Nézine n'était pas prêt à retourner. Ça n'aurait aucun sens. Versets 18 et 19, Paul est prêt à payer pour Onésime. C'est assez comique. Vous imaginez Paul, il n'a pas un rond. Et Onésime, vu ce qu'on voit et qu'on peut comprendre de ce que c'est un maître de l'époque, il avait probablement ce qu'il fallait. Donc c'est assez drôle de se dire, tiens Paul, je te paierai. Paierai quoi? C'est assez drôle, mais n'empêche, ok, l'intention est là. Comme le bon samaritain, vous vous rappelez hein, cette parabole où justement à la fin il passe près de la personne qui a été attaquée, il le prend, il est totalement inconscient, il le ramène jusqu'à un endroit en sécurité et il dit ok, je paierai pour cette personne. Vous rappelez ce texte? C'est pas lui qui a payé, moi je prends soin de lui, c'est moi qui ai payé pour lui. Donc on voit en fait quelque chose qui commence à éveiller notre esprit. Paul est en train de commencer à faire une connexion entre le comportement du chrétien qui veut quelque part payer pour aider le nouveau chrétien, on voit un peu ça. Mais on voit surtout ce que le Christ a fait pour chacun de nous, ici. Et c'est ça, en fait, qu'on va voir, c'est une des clés, en fait, de ce passage, pour moi. Paul dit, si tu faisais cela, je serais tranquillisé, il va dire. Mais le verset 21 commence, pour moi, le vrai message. C'est que Paul ne lui demande pas simplement de pardonner Onésime. Il lui demande de faire de lui un homme libre et de le recevoir en fait comme un frère. Donc c'est pas juste de l'accueillir comme une personne qui lui a fait du mal et de lui dire « Ce n'est rien, maintenant je te pardonne, les choses sont passées. » mais de dire, maintenant tu es mon frère, et on est ensemble. Car ça, c'est autre chose, c'est une autre démarche. Et là où va être la beauté, c'est ce qu'on va voir, c'est qu'il va utiliser les deux clés du départ, la foi et l'amour de Philémon, pour lui permettre de comprendre où puiser sa force pour faire ça. Et on va regarder ça ensemble. Comme j'ai dit au début, vous arrivez à un moment de la lettre et ce Philémon voit Onésime écrit, il a l'estomac complètement déchiré en voyant ça, il n'a pas envie de parler de lui, il a envie d'entendre parler de lui, et ainsi de suite. Mais Paul continue, il lui dit, j'ai pas envie de venir vers toi avec un bâton, quelque part, j'ai pas envie de t'obliger à faire quelque chose. J'ai envie que le fruit que l'Esprit a placé dans ton cœur de foi en Jésus-Christ et l'amour pour les saints, que tu puisses le mettre en pratique. Tu peux. Est-ce que vous pouvez imaginer l'impact que ça peut avoir d'une communauté? Vous avez Onésime qui revient. Toute la communauté sait que vous avez été complètement mis à plat en étant volé par lui et que vous avez perdu la face et tout ça. Et vous vous dites, celui-ci maintenant, mon frère, il était perdu et Dieu l'a sauvé. Et c'est notre frère à tous maintenant, que personne ne le regarde comme un esclave. Vous imaginez l'impact sur la communauté? C'est quand même impressionnant, un truc comme chose. Mais alors, où il va trouver la force de faire ça? Et c'est ça que j'aimerais essayer de vous montrer. On pourrait dire, et c'est ça qu'on entend souvent, s'il a de l'amour pour les saints, pour les gens, alors il devrait le faire aussi pour Onésime. Après tout, est-ce que Jésus n'a pas dit que les deux plus grands commandements, c'était d'aimer Dieu tout son cœur, toute sa pensée, de sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même? On pourrait dire, ah oui, c'est vrai, je suis chrétien. Ah oui, donc ça veut dire que je dois respecter les deux commandements, donc il faut... comment est-ce que je pourrais dire en même temps que je suis chrétien si je ne pardonne pas? Oui, donc il faut que j'aime, il faut que j'aime. Donc on se met en condition comme ça pour essayer d'aimer la personne, ok? Et d'une façon bien légaliste. Mais je dis une chose, Paul, il n'est pas idiot. Il n'a pas uniquement de dire qu'il a de l'amour pour tous les saints ici. Et pour, donc il dit, tu as la foi en Jésus-Christ. Et le jour où vous commencez à dissocier la foi de l'amour, vous n'arriverez plus à aimer pour de vrai, en fait. Vous n'arriverez pas. Vous pourrez essayer de oui, je t'aime. C'est dur, mais... Je dois le faire parce que je suis chrétien et si je ne le fais pas, Dieu ne m'aime pas. Donc je t'aime. Quel genre d'amour vous donnez en disant ça? C'est un amour obligé, vous êtes obligé d'y aller. Mais Paul va lui donner cette clé, ces deux clés, donc la foi et l'amour. Mais n'oubliez pas la foi dans l'histoire. N'oubliez pas, partez pas juste avec l'idée obligatoire que vous devriez pardonner et vous devriez aimer parce que vous êtes chrétien et si vous ne le faites pas, vous allez être puni. Ne commencez pas à penser comme ça parce que vous rateriez complètement la clé ici. Ce qu'il essaie de lui dire, c'est je me suis adressé à toi, à ton être spirituel, à ton être nouvelle naissance. Je t'ai dit que j'ai vu en toi la foi en Christ, qui te permet d'aimer les chrétiens. Je l'ai vu. Et il va lui dire une chose, il dit, n'oublie pas que tu te dois toi-même à moi. C'est assez intéressant. Quand vous dites à quelqu'un, en fait, je suis prêt à payer pour lui, hein, mais n'oublie pas que toi-même, tu te dois à moi. C'est assez intéressant. Moi, le premier moment, j'étais là, je fais, oui, okay, il va plus loin dans la manipulation. Là. C'est quand même... Mais, quelque part, ce qu'il est en train de dire, il est en train, pas de lui dire, tu sais que tu dois ton salut à moi, hein? Il n'est pas en train de lui dire ça, il est en train de lui dire, rappelle-toi que la force que tu auras de pardonner Onésime réside dans ton salut à toi. Rappelle-toi de ça. Donc, la raison pour laquelle il devrait pardonner Onésime, c'est l'amour. La raison pour laquelle il devrait pardonner. Mais la force de le faire, c'est la foi. Il peut pas trouver ailleurs la force de faire ça. Et il va lui dire quelque part quelque chose, si on comprend un petit peu, il va essayer de faire la connexion maintenant entre son propre salut à lui et le pardon en fait qu'il peut donner. Et c'est là que j'aimerais vous conduire pour terminer. Pour aller au-delà du pardon, si on oublie l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, on ne peut pas pleinement pardonner et on ne peut pas pleinement aimer. Imaginez que Paul dise quelque chose. Pardonne et aime ton frère, parce que c'est Jésus qui a demandé de le faire. Et moi, son apôtre, je fais en sorte qu'on respecte ce que Jésus a dit. C'est pas du tout ce que Paul dit, en fait. Il n'est pas là pour dire, tu sais, on est chrétien, notre religion nous dit qu'on doit pardonner, alors il faut le faire. Il n'est pas en train de dire ça. Mais il est en train de lui dire, rappelle-toi, quelque part, que ton propre salut vient de quelqu'un que tu as pleinement offensé. De la même façon qu'Onésime t'a offensé, toi, ton attitude avant ta conversion, et même pendant ta conversion, et même toute ta vie, offense ce Dieu qui a donné son Fils en sacrifice pour tes péchés. Rappelle-toi de ta conversion, rappelle-toi de ton salut, à toi d'où il vient. Fais une connexion entre Onésime, toi, et Jésus-Christ. Fais une connexion entre ton ennemi, toi, et Jésus-Christ. Fais un lien. Mettez-vous, en gros, quand vous avez un conflit, la chose la plus difficile à faire, mettons-nous à la place de Dieu qui est là, qui dit, ok, devant moi, j'ai les personnes les plus détestables de tout, okay, des gens qui m'offensent 24 heures sur 24, et ne lisez surtout pas que Dieu a tant aimé le monde dans le sens qu'on est aimable, on n'est pas aimable. Et c'est ça qui est beau, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, pas parce qu'on est aimable, mais parce qu'on n'est pas aimable. Il a choisi de nous aimer. Et Onésime, il est, entre guillemets, dans la mémoire, en tout cas de Philémon, il n'est pas aimable. Mais si Philémon fait un lien entre son propre salut, sa propre acceptation auprès de Dieu, qu'il dit finalement, si j'ai été accepté par Dieu, je ne suis pas meilleur que Onésime. Je n'ai pas été accepté par Dieu parce que je n'ai pas volé, parce que je n'ai pas fait ça, mais peut-être que j'étais complètement désagréable à Dieu sur d'autres plans, mais je ne m'en rends pas compte. Mais Dieu m'a quand même accepté. Il m'a quand même fait de moi un homme libre. Il m'a enlevé mon esclavage. Est-ce que je ne devrais pas faire la même chose pour Onésime? Est-ce que ce ne serait pas magnifique? Est-ce que ça ne susciterait pas finalement un témoignage de foi dans l'Église? Où les gens diraient, ah, ok, c'est ça en fait, la foi qui est mise en pratique. Lorsque je pardonne et que je libère la personne de la captivité et que je dis non, tu es libre parce que Christ a payé pour toi comme il a payé pour moi. Quel grand Dieu, non? Quelle stratégie? Paul a une stratégie en écrivant ici, mais Jésus en avait une autre, celle de donner sa vie en rançon pour nous, afin que nous n'ayons pas à penser qu'on a payé à quelque chose pour être sauvé, mais surtout qu'on n'ait pas à penser à qu'on doit faire payer les autres pour les pardonner. Parce que souvent c'est là, hein. On a besoin en fait que l'autre paye quelque chose, qu'il souffre un peu du mal qu'il nous a fait afin qu'il puisse être pardonné. N'est-ce pas ? On aimerait qu'il ressente la piqûre qui nous a fait, le mal qu'on a ressenti. S'il pouvait ressentir un besoin, peut-être que je serais plus enclin à pardonner. Mais nous, en tant que chrétiens, on doit plutôt penser, non, le Christ a été piqué du mal qu'il m'a fait. Il a payé pour lui comme il a payé pour moi. Qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je ne le pardonnerai pas? Pourtant, le Christ m'a pardonné, je ne suis pas meilleur. Donc je vous donne en conclusion une petite phrase, quand vous aurez ce genre de conflit dans votre propre tête et dans votre propre vie. La force du pardon se trouve dans la foi au sacrifice expiatoire accompli par Jésus-Christ sur la croix. Le fait que Jésus-Christ soit monté sur une croix pour payer à notre place, c'est là que réside notre force de pardonner. Et rappelez-vous cette phrase. Je n'ai rien à payer et je n'ai rien à faire payer car Jésus-Christ a tout payé. Je n'ai rien à payer et je n'ai rien à faire payer car Jésus-Christ a tout payé. Si on croit au salut par la grâce et non par les œuvres, par le mérite, alors dans notre pardon, c'est la même chose qui doit se passer. Ce n'est pas exiger de l'autre qu'elle mérite notre pardon, mais c'est de dire de la même façon que Christ m'a pardonné, je te pardonne. Ça ne veut pas dire je ne ressens pas de blessure, ça ne veut pas dire ça. Dieu a ressenti une blessure très douloureuse. Et dire, non, c'est rien, c'est pas grave. Non, Dieu, il n'a pas dit ça. Si Dieu, il avait dit, non, vous inquiétez pas, c'est pas grave, mais il n'aurait pas envoyé son fils, ça n'aurait pas été si grave que ça pour donner son fils. C'est grave, l'offense qu'on fait contre Dieu. Et il a payé de sa vie pour ça. Petite chose avant de terminer. Si vous regardez bien à la fin de la lettre, si je ne me trompe pas, Paul va parler de Marc. Est-ce qu'il fait bien référence à Marc? Si votre mémoire est correcte, il s'agit probablement de la personne avec laquelle il s'est disputé, en fait, dans Actes des Apôtres. Ils se sont séparés. Ok? Et il transmet ses salutations à Marc, ici. Il y a un bon espoir, en fait. Ici, on voit que Paul montre qu'il a dû passer aussi par ce genre de choses. Pardonner et se réconcilier et transmettre son affection à nouveau à quelqu'un. Donc, pour résumer, lorsque nous voulons aider des personnes qui sont en conflit, nous-mêmes soyons des exemples de personnes qui demandent pardon. Lorsque nous écrivons ou que nous parlons à quelqu'un, nous ne serons pas trop prompts à critiquer, mais avant tout à dire les belles choses que l'on voit que Dieu fait dans la vie. Et en cela, rappelons-nous tous que dans tout conflit, si on se rappelle, je n'ai rien à payer, je n'ai rien à lui ou à lui faire payer, parce que Christ, Jésus-Christ a tout payé. C'est terminé. L'œuvre est complète. Ça, c'est un témoignage qui énergise la communauté, qui fait du bien autour de nous. Comment est-ce que vous avez trouvé la force de faire ça? Je termine avec le témoignage d'une jeune femme, il y a quelques années, qui traversait la rue avec son fils. Et son fils lui lâche la main et puis pour rechercher quelque chose qu'il avait fait tomber. Puis il y a un véhicule avec un homme sous qui percute et il meurt. Et le jeune homme qui est dans cette voiture a 16 ans. Et puis, mettez-vous un peu à la place. Comment est-ce que vous trouvez la force de pardonner quelqu'un qui est complètement en tort, finalement, qui percute votre enfant, vous ne verrez plus jamais? Ce qui est intéressant dans son témoignage touchant, en fait, c'est que il a dû aller en détention, évidemment, et dans son contexte à lui, il devait commencer à payer la prison, même s'il était en âge de... les deux premières années. Et probablement, ils ont dit ça va durer pour 20 ans. S'il n'y a pas un bon avocat, et ainsi de suite. Donc en fait, il est resté que quelques années, finalement. Et ce qui s'est passé d'étrange, c'est que cette femme, plutôt que de laisser avoir une amertume dans son cœur, elle a commencé à visiter cette personne en prison. Et là, tu fais, elle prend la force. Et puis... C'est une personne qui n'avait pas de famille, seule, complètement seule, personne pour venir le voir. Et elle pose la question aux personnes de détention, parce qu'elle est allée le voir à tous les moments, en fait, pendant toute sa détention. Et il se trouve que cette personne est devenue chrétienne, parce qu'elle lui a donné son pardon. Et ça, elle lui a pardonné, je veux dire, c'est très beau. Mais ce qu'elle a fait à la fin est encore plus beau. C'est qu'elle est allée voir... Le juge a dit, mais il n'a personne. Il n'a personne. Et qu'est-ce qu'il va faire une fois sorti de prison? Il a dit, mais il n'a personne. Donc, probablement, rien, quoi. Et elle a choisi de l'adopter, en fait, comme son fils. Imaginez le genre de témoignage que vous avez en face de vous, la personne qui, accidentellement, certes, a écrasé votre enfant, mais qui l'a fait. Qui a su pardonner, et son témoignage l'a conduit à Jésus-Christ, et qui l'a restauré dans une condition de fils, et pas juste d'une personne comme ça qui est pardonnée. Ça, c'est du pardon aussi, n'est-ce pas? C'est beau. Et nous, dans notre esprit, on ne sera peut-être probablement pas dans ce genre de situation, peut-être que si, mais on a tous des personnes qu'on retient captives dans notre cœur, tous des personnes qui... On aurait bien envie de leur faire payer un ou deux trucs. Mais rappelons-nous que toutes les choses qu'on fait contre le Christ, encore aujourd'hui, il nous les pardonne. Il les prend sur lui. Prions ensemble. Éternel Dieu, merci que ton amour est sans limite pour des pécheurs comme nous. Tu Tu n'es pas venu à nous parce que nous avions un potentiel en nous. Tu n'es pas venu à nous parce que tu as vu de belles choses en nous. Mais tu es venu parce qu'il était nécessaire de sauver des êtres livrés à eux-mêmes dans leurs propres conditions de pécheurs. Tu n'as pas regardé à notre condition, dit Ephésiens 2, mais tu es venu te livrer toi-même sur une croix afin que nous n'ayons plus jamais à payer, que notre dette soit totalement annulée et que nous puissions jouir de la joie éternelle en étant adoptés comme fils et filles de Dieu par toi. Nous t'avons offensé, tu nous as pardonné, tu nous as adoptés. Seigneur, nous te prions que lorsque nous sommes en conflit, en difficulté, nous puissions prier dans notre cœur afin de discerner notre frère, notre sœur en face et nous rappeler que je n'ai plus rien à payer. Je ne veux plus rien faire payer à l'autre parce que toi, Jésus-Christ, tu as tout payé.